Pour passer de belles vacances comme les voyageurs prévoyants, assurez votre voyage avec Suno Assurance et suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé a le plaisir de vous retrouver à Port-au-Prince pour le troisième volet de sa semaine haïtienne. Une série d'émissions qui nous permet de comprendre la situation sanitaire comme les attentes en matière de santé, d'accès aux soins dans cet état des Caraïbes. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur les liens entre l'environnement et la santé. Pollution et qualité du cadre de vie constituent des préoccupations planétaires. L'air que l'on respire, l'eau que l'on boit ou dans laquelle nous nous baignons, habitat, assainissement, traitement des déchets, une problématique multiple aux conséquences aussi nombreuses que variées en termes sanitaires, maladies respiratoires, environnement insalubre, rejets toxiques, épandage, cohabitation avec des déchets non traités, atteintes dermatologiques, parasitoses provoquées par la dégradation de la qualité de l'eau. Et précisément, cette ressource essentielle en termes d'alimentation et d'hygiène peut également se révéler redoutable en cas de prolifération bactérienne. Ces dernières années, une maladie a illustré certainement plus que tout autre ce péril environnemental sur la santé humaine. Cette maladie ici, c'est le choléra qui, d'après l'OMS, a touché 800 000 personnes et provoqué au moins 10 000 décès en Haïti. Les carences de la réponse sanitaire dans un contexte de crise inédite après le séisme de janvier 2010 ont servi de terreau à cette infection dont le pays n'est toujours pas débarrassé près d'une décennie plus tard. Alors si cet état des lieux se révèle à la fois complexe et douloureux, il ne décourage pas pour autant les acteurs de terrain, médecins, agents communautaires, ONG, tous engagés à leur échelle à changer les choses. Environnement et santé en Haïti, une émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Alors, énormément de sujets associés à cette problématique de l'environnement. Je vous présente tout de suite nos invités. Professeur Jean-Hugues Henrys, bonjour.
Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio France Internationale.
Vous êtes directeur du laboratoire Santé-Environnement à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Kiskeya à Port-au-Prince, en soins ancien doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Problématique centrale, c'est l'accès à une eau de bonne qualité. Problématique de l'assainissement aussi. Pour en parler avec nous, Vankos Loror, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour auditeurs et auditrices Radio France Internationale.
Vous êtes responsable du projet Choléra à l'ONG Solidarité Internationale en Haïti. Et tout à l'heure, nous retrouvons Beverly Pierre, directrice du projet Ecolai de l'ONG Sol, ici à Port-au-Prince.
RFI.
Alors une question assez directe pour entrer en matière. Est-ce que Port-au-Prince, la capitale haïtienne, est-ce que c'est, professeur Jean-Hugues Henrys, une capitale où il fait bon vivre, non pas en termes de bonheur au quotidien, de sortie, etc., mais pour rester en bonne santé? Est-ce qu'on peut vivre ici et ne pas mettre sa santé en péril?
Question difficile. Est-ce qu'il fait bon vivre à Port-au-Prince? Non, je ne le pense absolument pas. Le premier recensement de la population, on l'a eu au début des années 50 en Haïti. Et à l'époque, Port-au-Prince, c'était environ 250 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons une aire métropolitaine de Port-au-Prince qui regroupe en fait plusieurs communes, Port-au-Prince, Delma, Carrefour, Croix-des-Bouquets, etc. Et là, on parle de plus de 3 millions de personnes. Au plan des infrastructures, il n'y a pas eu beaucoup de choses à bouger entre les années 50 et aujourd'hui.
Et même donc, si on fait, excusez-moi, abstraction de la catastrophe de 2010, du tremblement de terre, même avant cela, l'état des lieux n'était pas reluisant.
Je dirais même qu'on a eu autant de dégâts dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince parce que la situation avant 2010 était déjà une situation inacceptable. La grande majorité de la population haïtienne aujourd'hui vit dans des bidonvilles ou dans des espaces précaires. Et bien évidemment, avec toutes les conséquences que cela suppose en termes de gestion des ordures, d'approvisionnement en eau et d'assainissement de base, etc.
Alors, on va bien sûr pas s'arrêter uniquement à la capitale, hein. On va demander votre expertise sur la situation également en milieu rural, des défis concrets, hein, en termes d'environnement et de santé, l'eau, bien sûr, on va parler assainissement, on va parler de l'habitat, traitement des déchets. Mais d'abord, je me tourne vers vous, le médecin, professeur Jean-Hugues Henrys. Quand on vit dans un environnement malsain, on encourt quels risques? On est exposé à quelles maladies?
On retrouve à la fois les maladies infectieuses. Donc c'est le gros lot de la morbidité dans ce type d'environnement. Et là, je pourrais citer le paludisme. On est avec la République dominicaine l'un des rares pays de la région de l'Amérique latine où le paludisme est encore endémique. Et on pourrait citer une maladie aujourd'hui emblématique en Haïti, c'est le choléra.
On va en reparler tout à l'heure, on aura
donc,
un reportage à ce sujet.
Il y a bien évidemment les parasites intestinales. Il y a bien évidemment toutes les maladies diarrhéiques causées par des virus, le rotavirus, etc. Et il y a tous les problèmes de gastro-entérite, etc., etc. Là, je parle des maladies infectieuses. Au niveau de notre laboratoire, nous sommes en train de réfléchir à une étude longue durée sur les conséquences de la pollution de l'environnement, de la pollution de l'air en particulier. Tous les pédiatres nous parlent d'une augmentation des cas d'infection respiratoire chez les enfants.
Les facteurs, c'est quoi? C'est la destruction, l'incinération des déchets, c'est la circulation, c'est quoi précisément?
L'OMS a signalé la pollution de l'air, en particulier par le fait, et c'est le cas en Haïti, les gens utilisent le charbon de bois, et le plus souvent dans des espaces réduits.
La cuisine, tout simplement.
Voilà, la cuisine, tout simplement, va vous donner quoi? Un air pollué, et cet air pollué va occasionner un certain nombre de pathologies.
Notamment
et
des bronchites
particulièrement
chroniques.
Particulièrement chez les enfants. Je crois que c'est eux qui payent le lot le plus important à ce genre de problème, mais également des problèmes chez les adultes, bronchites et tout le reste.
Et sur le plan dermatologique aussi, on soulève des pathologies particulières liées à cet environnement malsain?
Là encore, si vous utilisez une eau non traitée, vous vous exposez à des infections cutanées. Mais vous avez un problème de manque d'eau également, parce que quand même, il faut pouvoir se laver régulièrement et tout. Et on a en Haïti des ectoparasitoses. Je veux parler en particulier de la gale, que vous retrouvez donc particulièrement chez les gens qui n'ont pas accès à l'eau et qui ne peuvent pas avoir une hygiène corporelle adéquate. Mais il faut le signaler, malheureusement. Et depuis quelques années, on a identifié également en Haïti des foyer de tangose. La tangose, c'est la puce chic. Donc, c'est le fait pour les populations très pauvres de ne pouvoir être chaussées correctement. Donc, de travailler pieds nus et d'attraper, justement, ce parasite. Donc, il y a des foyers qui ont été identifiés en Haïti. Et si vous interrogez la littérature médicale récente, vous allez trouver des cas documentés en Haïti, particulièrement dans le plateau central.
Alors, on va voir tout à l'heure qu'on peut être exposé à d'autres types de nuisances. Hein. On le constate quand on circule dans Port-au-Prince, notamment les nuisances sonores très importantes qui doivent avoir bien évidemment un impact très puissant en termes de stress. Je me tourne à présent vers notre autre invité, directement impliqué sur le terrain pour l'amélioration de l'accès à des installations de premier plan, tout à fait capitales pour vivre dans de bonnes conditions d'hygiène. Le professeur Jean-Hugues Henrys vient déjà de le souligner. Le socle de l'hygiène, bien sûr, c'est l'eau, accéder à une eau propre. Wanklos Lauror, l'accès à cette eau propre, c'est au cœur de l'activité de votre organisation, de votre ONG Solidarité Internationale. Alors, un rapport de la Banque mondiale de 2015 montre que le nombre de familles haïtiennes disposant d'une arrivée d'eau à l'intérieur du domicile a baissé. Même chose pour l'accès aux bornes-fontaines, un recul important. Pourquoi est-ce que cette situation empire, Wanklos Lauror?
Lorsqu'on considère, par exemple, le choléra comme une maladie oropharyngale, il y a trois facteurs essentiels de transmission, dont l'accès à l'eau, parce que le choléra, c'est une maladie hydrique. Eh bien, lorsqu'il y a un problème, effectivement, d'accès à l'eau, eh bien, ça a des impacts, normalement, sur la population. Donc, je voulais aussi annoncer que, comme on parlait tout à l'heure de Port-au-Prince, à l'aire métropolitaine, eh bien, par rapport à l'épidémie de choléra depuis son arrivée en 2010, eh bien, nous pouvons dire que la métropole, à elle seule, regroupe en moyenne 50% de l'épidémie nationale. Donc c'est lié à toutes ces problématiques-là, dont l'accès à l'eau, etc.
Mais pour décrire justement la situation de la population au quotidien dans Port-au-Prince, sans pointer directement la question du choléra, j'aimerais que vous m'expliquiez, quand on est dans une petite maison accrochée à la montagne, quand on n'a pas l'eau qui arrive, comment est-ce qu'on se procure de l'eau ?
Dans les zones rurales, la population en général s'approvisionne par des sources non captées et des sources non protégées. Et ce qui rend encore plus risqué l'exposition à des maladies hydriques.
Et en ville, on peut voir des personnes arriver avec des bidons, des seaux à des bornes fontaines. On a même vu des gens en circulant dans la ville aller puiser dans des espèces de marigots à côté de tas d'ordures qui sont en train de récupérer de l'eau. En faisant ça, ou en Kosloros, ils se mettent vraiment en péril, il y a des risques. Et puis, autre chose, on voit des boutiques qui vendent des bidons d'eau purifiée. Ça veut dire que pour certaines familles, il y a un budget eau, il faut dépenser de l'argent pour acheter de l'eau propre.
Au niveau de la population, il y a vraiment une envie de consommer de l'eau traitée. C'est déjà une envie de la population de
consommer. C'est une envie parce qu'il y a eu une sensibilisation, parce qu'il y a eu de l'information, c'est pour se protéger. C'est pas, j'imagine, c'est pas pour accéder à un rang social, c'est vraiment pour des raisons d'hygiène.
Exact.
Et comment est passée cette information, justement, de dire attention à la qualité de l'eau que vous buvez?
Alors, il y a tout un ensemble de messages selon les directives du MSPP, du ministère de la Santé et de la Population, qui a fait sortir un ensemble de messages de sensibilisation en prévention aux maladies hydriques, dont le choléra. L'un des choses importantes, c'est la consommation de l'eau traitée. Donc, c'est ce message qui est passé au sein de la population qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y a cette envie, ce changement de comportement vers la consommation d'une eau plus ou moins traitée. Mais aussi, il y a des enjeux par rapport à ça. Il faut qu'il y ait un budget. Donc, ce qui rend un petit peu beaucoup plus compliqué la population dans les zones les plus vulnérables.
Professeur Jean-Hugues Henrys, effectivement, il faut en avoir les moyens d'acheter ces bidons d'eau traitée.
Définitivement. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans les années 70, par exemple, on consommait sans inquiétudes l'eau de la CAMEP, donc qui était la centrale autonome métropolitaine d'eau potable. Et aujourd'hui, même si vous discutez avec un cadre de la DINEPA, donc Direction nationale de l'eau de l'assainissement, ils vont vous dire que la DINEPA peut garantir la potabilité de l'eau au point de captage, mais ne peut absolument pas garantir que l'eau qui arrivera à votre robinet sera de l'eau potable. Et tout le problème est là. Il y a le problème des prises clandestines sur le réseau. Et bien évidemment, des fois, comme en novembre 2014, donc contamination du réseau par le Vibrio choléré qui a occasionné la plus importante flambée, la dernière grande flambée de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince fin 2014. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement la population est sensibilisée à cette question, des gens pauvres font l'effort d'avoir un budget eau, particulièrement dans le cas où il y a des nourrissons, enfin des enfants en bas âge dans la famille. Les parents plus âgés probablement prennent le risque d'être contaminés, mais vous allez voir des gens arriver dans des débits d'eau traités avec des gallons, un gallon, 3 litres 78. Et la plupart des cas, c'est des gens qui veulent quand même s'assurer que leur nourrisson va consommer une eau qui ne leur apportera pas une maladie.
Alors, il y a des projets concrets. La Banque interaméricaine de développement a promis en décembre 125 millions de dollars pour équiper la zone des Gonaïves et de Cap-Haïtien, branchement d'eau potable sécurisée, assainissement, de l'argent qui vient un petit peu pour financer tout ça. Effectivement, ce type d'effort peut avoir, professeur Jean-Hugues Henrys, un impact très concret en termes épidémiologiques, car justement, ça reste un problème de santé majeure publique. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que, avec l'alimentation, cet accès à l'eau, c'est le grand problème pour la santé des populations?
Moi, je crois que c'est le plus important problème de santé pour la raison très simple que l'eau, elle n'est pas utilisée uniquement pour la boisson. Elle est aussi utilisée pour tous les autres usages domestiques, que ce soit à usage externe ou à usage interne, si vous me le permettez, eh bien, des risques de maladie peuvent se présenter. Donc la garantie, c'est de pouvoir utiliser...
Ce dont vous parliez tout à l'heure, notamment les maladies cutanées.
Justement.
Donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, Beverly Pierre vient de nous rejoindre. Beverly, vous travaillez pour l'ONG Écolacaille. C'est directement les activités de cette association sont directement liées justement aux questions d'assainissement, de qualité de l'eau. Vous allez nous expliquer pourquoi et précisément comment décrire ce que vous faites au sein de votre ONG. Qu'est-ce que vous proposez comme offre?
En fait, je travaille pour SOIL, qui est une organisation qui travaille en Haïti depuis 2006 pour promouvoir la dignité et la santé de la population et des modes de vie durables par le biais de la transformation des déchets en ressources. Maintenant, en parlant des déchets, on intervient sur les matières fécales et on les transforme en ressources qui sont des engrais organiques.
Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas encore abordé directement dans l'émission, on en a peut-être parlé insidieusement, indirectement, on a parlé de l'accès à l'eau, mais il y a aussi quelque chose qui manque cruellement ici en Haïti, c'est d'avoir des toilettes chez soi, d'avoir un lieu où faire ses besoins, un lieu intime et un lieu hygiénique où faire ses besoins. Et c'est là justement, Beverly Pierre, qu'intervient votre organisation.
C'est là qu'intervient Écolacaille. On propose un système de toilettes. C'est apparenté avec les toilettes de confort moderne, mais à la seule différence, on n'utilise pas d'eau.
Ce sont des toilettes sèches.
Voilà,
ce sont mais elles ressemblent, quand on, visuellement, ça ressemble à des toilettes ordinaires.
Ça ressemble, voilà. On forme des gens pour qu'ils les construisent. Ces familles-là paient pour ce service un coût minimal de 350 gourdes par mois. Maintenant, avec ce système qu'ils ont chez eux, ils font leurs besoins. Le pipi est séparé des matières fécales. Ils ont une matière pour couvrir les matières fécales pour que ça n'ait pas d'odeur, etc. Et puis, chaque semaine, on passe chez eux récupérer ces matières-là et on leur donne de nouveaux seaux pour qu'ils puissent s'en servir et on va avec ces seaux sur notre site de traitement.
J'ai une question, vous parliez de cette somme mensuelle à verser, est-ce que c'est accessible? Est-ce que beaucoup de familles ont les moyens de payer justement, d'avoir dans leur budget une somme réservée pour justement le traitement des déchets humains?
Bien, jusqu'à présent, on dessert plus de 100 familles et jusqu'à présent, ils ont les moyens de payer. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de payer ce service, mais on ne peut pas baisser le coût à cause des dépenses qu'on fait. Parce qu'on fait d'énormes dépenses et jusqu'à présent, on n'arrive pas à couvrir toutes ces dépenses avec la somme que les ménages paient.
Alors, jusqu'à présent, Beverly Pierre, vous êtes financé comment, justement, si ce que payent les ménages ne recouvre pas vos dépenses? Comment est-ce que vit l'association?
L'organisation reçoit des donations et des financements de plusieurs autres organismes qui acceptent de nous financer jusqu'à présent. Et maintenant, on essaie de créer un modèle et de business rentable pour que Écolacaille puisse être indépendant.
Il y a aussi un changement de mentalité, professeur Jean-Hugues Henris. Avoir des toilettes chez soi en Haïti, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui concerne la majorité de la population, loin de là.
Pas du tout. Et dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, il y a un peu plus de 50% des gens qui ont accès aux services d'assainissement de base. Et en milieu rural, on estime que plus de 70% des gens n'ont pas accès justement aux services d'assainissement de base. Et c'est un luxe, presque, que de pouvoir disposer de toilettes, etc. Et je suis admiratif devant le boulot qui est fait par Écolacaille. Et à l'aune des objectifs de développement durable, tout ce qu'on peut espérer, c'est de pouvoir faire bouger de manière significative et surtout durable.
Et adaptée à la situation.
Tout à fait. Donc un certain nombre d'indicateurs de santé, dont ces indicateurs-là.
Assainissement, eau potable, on sait très bien que manquer des deux, c'est le terreau du choléra. émission de santé, professeur Jean-Hugues Henrys, on va commencer tout simplement par décrire les symptômes du choléra. C'est toujours ce qu'on fait dans l'émission?
C'est la diarrhée. En Haïti, ça, enfin, il parle de tchouloulout. Donc, vous avez quelqu'un qui va avoir 10, 15, 20 selles en une journée. Et il y a ce cas de l'écolier, au tout début de l'épidémie, qui est sorti de chez lui pour aller à l'école, qui a consommé l'eau de l'artibonite et qui, 8 heures après, était décédé. Donc, c'est ça.
Fulgurant.
Ah oui, fulgurant. Bien sûr. Donc, il faut quand même avaler 1 million de microbes pour avoir des signes de choléra. Donc il faut croire que dans le cas de ce jeune, justement, c'était plusieurs millions de vibrions. Et c'est la diarrhée qui est le signe majeur, une diarrhée qui n'est pas comme les autres diarrhées qu'on a connues ici, parce que là encore, il est important de le rappeler, il n'y a jamais eu de choléra en Haïti avant 2010.
Alors justement, il y a moins d'un mois, le Centre européen de contrôle de prévention des maladies a publié son bulletin de surveillance de ce choléra. 3794 cas, dont 43 décès notifiés pour 2018, ce sont les chiffres. L'année précédente, 2017, Haïti avait connu plus de 3,5 fois plus de cas. Les Nations Unies, de leur côté, ont mis 6 ans pour reconnaître leur implication dans l'introduction de l'épidémie par ces hommes dans le pays, alors que le professeur Renaud Piarou, lui, a identifié la source de la contamination dès novembre 2010. D'ailleurs, le professeur Piarou consacre un livre à cette crise qui est publié le mois prochain au CNRS Éditions sous le titre « Choléra, histoire d'un désastre sanitaire et politique ». Ce choléra, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Et je vous propose de nous retrouver après un petit détour par le GESCHIO, précisément son centre de prise en charge du choléra au sein de cette structure de soins dédiée au départ à la lutte contre les maladies infectieuses. C'est un bâtiment à l'architecture géométrique futuriste qui est dédié à la maladie, avec des façades ajourées, un dégradé de bleu, bâtiment directement conçu en fonction des besoins sanitaires. Et sur place, Ophélie Lassène a rencontré le docteur Karine Sévère. Elle y officie depuis une dizaine d'années. Elle est responsable du centre de prise en charge des diarrhées aiguës.
Lorsque nous avions commencé à prodiguer des soins aux patients atteints de choléra, c'est-à-dire au tout début de l'épidémie en 2010, la maladie étant tout à fait nouvelle en Haïti, nous n'avions pas de structure spécialisée. Donc on a dû faire avec les moyens du bord. On a été aidés par énormément d'organisations internationales qui nous ont fait parvenir des tentes. Malheureusement, ces tentes étant en plastique, il faisait excessivement chaud. Donc, nous avons eu la collaboration d'une firme d'architecture, la Mass Group. Et c'est ainsi qu'ils ont vu que le premier problème était la chaleur. Il fallait venir avec une structure hyper aérée. Donc, ils sont venus avec le concept de ce bâtiment pratiquement faire travailler, en faire forger travailler, qui permet une très bonne ventilation. Donc, déjà, gérer la chaleur a été le premier objectif et c'est ce qui a permis d'avoir ce beau bâtiment que nous voyons actuellement.
Et ça permet aussi, quand on est à l'intérieur, d'avoir vraiment l'accès à la lumière du jour.
Exactement. Toujours par rapport à la lumière, mais plus spécifiquement par rapport au rayon du soleil, ça ajoute quand même une certaine valeur au côté aseptique du bâtiment. Donc, ça permet un meilleur nettoyage et nous assurer également qu'on diminue au maximum le risque d'infection, toute infection confondue, bien sûr, au niveau de cette structure.
On va rentrer ?
Oui.
Donc là, quand on arrive, il y a ce seau. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il fait là ?
Disons la première station, le premier point d'arrêt où vous avez un seau qui contient une solution chlorée à un certain pourcentage pour permettre à toute personne qui rentre, pas forcément le patient, mais les visiteurs, de se laver les mains. C'est la première phase de décontamination.
Donc on va y aller, on va se laver les mains.
On prend le soin de bien se frotter les deux mains et c'est déjà la première phase de décontamination. Cet espace représente le deuxième point de notre bâtiment où les patients sont placés en observation après une évaluation sommaire de l'infirmière pratiquement à l'entrée. Donc, quand le patient il arrive, l'infirmière accourt le plus rapidement possible pour évaluer le niveau de déshydratation. Et si on voit que le patient il a un niveau de déshydratation légère, il est placé en observation sur des chaises que nous appelons les chaises cholériques. Ce sont des chaises particulières qui ont un trou au niveau du siège pour permettre l'évacuation des excrétas. Donc, au-dessous de ce siège, vous aurez le seau qui va les recueillir. Et ce seau contient également la solution chlorée, la plus fortement dosée, pour permettre la décontamination immédiate de ces excréments une fois tombés dans le seau. Le type de prise en charge qui est effectué, c'est la réhydratation orale. Parce que le patient, il est gardé en observation. On voit comment va évoluer la situation, s'il va s'en remettre, s'il va continuer à passer des selles ou des vomissements. Et si le cas s'amende, il est exéaté. Par contre, si le cas évolue de manière négative, il sera transféré dans l'autre espace que nous allons voir, qui est l'espace d'hospitalisation.
Et là, on ne peut pas s'empêcher de ne pas remarquer ces fleurs qui sont au milieu.
Nous savons que la verdure quand même contribue de manière significative. Donc, on a voulu quand même que cet espace ne reflète pas trop la peur, la stigmatisation qu'a engendré quand même cette maladie dès son apparition.
Très bien. Donc là, on va voir en fait le parcours d'une personne quand la réhydratation orale n'a pas été suffisante.
Nous arrivons à la troisième partie, au troisième espace du bâtiment, qui est la salle d'hospitalisation. Donc, c'est une salle qui est pratiquement divisée en quatre parties et qui a une capacité de 100 lits.
Là, on voit que toutes les salles sont vides. Combien de personnes vous recevez par mois, disons ?
C'est vraiment très aléatoire. Aujourd'hui, vous venez, vous ne trouvez aucun cas. Vous revenez dans une semaine, vous voyez qu'il y en a 15. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, il y a des petites flambées qui sont déclarées dans des zones bien spécifiques, soit parce qu'il y a un problème de contamination au niveau d'un réservoir de distribution d'eau. Tout comme ça, il peut s'agir d'un cas en provenance d'un autre département qui est venu contaminer une zone qui n'avait pas vraiment accès à l'eau potable. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Aujourd'hui, on n'a personne. La semaine prochaine, on peut en avoir 15, 30, ça dépend.
Ce reportage signé Ophélie Lassène dans l'aile du centre GESCHIO dédié à la prise en charge du choléra à Port-au-Prince. Nous nous retrouvons pour la suite de Priorité Santé sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui à l'impact de l'environnement sur la santé, enregistrée ici à Port-au-Prince. Nous sommes toujours avec nos trois invités, Beverly Pierre, directrice du projet Eco-Lacaille de l'ONG Soil, Wanko Sloror, responsable du projet choléra à l'ONG Solidarité Internationale en Haïti, et vous, professeur Jean-Hugues Henrys, directeur du laboratoire Santé et Environnement à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université Kiskeya à Port-au-Prince. Forcément, quand on entend ce reportage, professeur Henrys, on pose la question, quand est-ce qu'Haïti en aura fini avec le choléra ?
Alors, moi, je me définis comme un optimiste impénitent et je me dis dans les prochains mois.
Carrément.
Bon, oui, c'est une déclaration vraiment très, très optimiste. Mais il faut dire que si on compare les courbes et d'évolution de la maladie pendant les trois dernières années, on se rend compte vraiment qu'on est à notre niveau le plus bas depuis 2010. Et la stratégie qui a été utilisée pendant ces dernières années a été la stratégie alerte-réponse. Donc c'est identifier là où il y a les flambées et comme les pompiers, débarquer en force pour éteindre le feu.
Ça veut dire le chlore notamment ?
Ah bien évidemment, non, c'est à la fois la prise en charge efficace, la prise en charge correcte des cas que les mesures d'accès à l'eau et d'assainissement.
Soigner et protéger.
Ah tout à fait. Donc ça veut dire le cas est identifié, on débarque chez les parents, donc on fait de la chimioprophylaxie à la doxycycline, on identifie le point d'eau de la communauté, on fait la chloration directement là où les gens s'approvisionnent en eau, et on fait tous les messages d'éducation, etc., etc. Donc c'est un paquet, c'est complet, qui est destiné à la communauté et à la famille où le cas a été identifié. Donc c'est cette stratégie qui a été priorisée, je dis bien priorisée, je ne dis pas qu'elle a été exclusive, qui a été priorisée pendant les dernières années, et les résultats se sont fait sentir, et je persiste à croire, en tout cas à espérer, qu'on n'entendra plus parler de choléra en Haïti.
Et vous, au regard de votre expérience de terrain, Wanko Sloror, est-ce que vous partagez cet optimisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'Haïti est en bonne voie pour éliminer la maladie?
Je partage cet avis. Les résultats qu'on a constatés aujourd'hui, c'est un effort consenti déjà par la coordination des acteurs. Là, je parle des acteurs WASH et des acteurs santé. Et c'est aussi des efforts consentis par l'État dans une certaine mesure. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, il y a une très, très bonne opportunité, l'opportunité d'éliminer le choléra.
Projet Choléra pour votre ONG Solidarité Internationale, ça consiste précisément en quoi?
Alors, le projet Choléra, c'est que il y a deux prises en charge. Il y a la prise en charge médicale qui est faite dans les centres de santé et la prise en charge communautaire. Donc, Solidarité fait directement la prise en charge communautaire. Pour ce, nous travaillons avec les agents du ministère de la Santé publique et aussi des membres de la Direction nationale d'eau potable. Donc, une fois qu'il y a un cas enregistré dans un centre de traitement de diarrhée aiguë, eh bien, nos équipes vont directement dans le foyer, eh bien, pour administrer un paquet de réponses. Et quand je dis un paquet de réponses, ça commence selon la stratégie qui était définie par une investigation. Et cette investigation consiste à identifier la source de contamination probable ou possible et aussi à identifier d'autres cas dans les recherches actives. Par exemple, on peut trouver des cas qui n'étaient pas nécessairement pris en charge dans une structure. Donc, l'investigation nous permet de voir tout ça et aussi d'orienter notre réponse. Et il y a la sensibilisation du foyer et les personnes avoisinantes aussi. Là, on parle du cordon sanitaire. Et il y a un gros volet aussi qui est la désinfection domiciliaire. Et cette désinfection consiste à couper la chaîne de transmission, détruire le vibrion par le chlore pour empêcher qu'il y a d'autres personnes qui soient affectées par le choléra. Et il y a aussi la distribution de kits d'hygiène et aussi un autre paquet important qui est la prophylaxie. Donc, avec les équipes mobiles du ministère de la Santé, eh bien, ils administrent de la prophylaxie dans le ménage affecté et dans le cordon sanitaire. Et tous ces paquets-là permettent de couper les flambées, mais aussi d'éviter toutes sortes de propagations possibles.
Alors, on comprend une action massive pour essayer de couper la contamination. Est-ce que, d'après vous, Wankos Loror, ce choléra, justement, a permis vraiment d'avoir une grande prise de conscience sur la question de l'eau, sur la question de l'assainissement? Avant, on avait certes beaucoup de mortalité par diarrhée aiguë, notamment chez les enfants, mais est-ce que là, avec le choléra, ça a donné une visibilité différente? Ça a choqué les esprits?
Je crois que oui. Si nous regardons un petit peu les données épidémiologiques, le plus grand nombre de décès a été constaté, notamment en 2010 et 2011. Et de plus, avec cette épidémie, il y a cette conscience au fur et à mesure qui s'est prise par la population pour changer de comportement et notamment avoir accès à de l'eau potable et aussi à l'assainissement. Parce que si vous voulez combattre un petit peu, lutter contre le choléra, c'est des choses qu'il fallait quand même améliorer.
Des messages d'éducation thérapeutique, professeur Jean-Hugues Ruiz, qui ont pu justement s'appuyer sur cette catastrophe?
Ça a commencé bien avant, il faut le reconnaître, et ça a été, je dirais, amplifié avec l'épidémie de choléra. En réalité, la prise de conscience de la possibilité de réduire la mortalité infantile par les maladies diarrhéiques, et là, il faut rendre cette justice au professeur Jean-William Pape.
Qui est notre invité cette semaine.
Quand il est arrivé avec la réhydratation orale au service de pédiatrie de l'hôpital de l'Université d'État, il a fait passer la mortalité de plus de 50% à moins de 10% en quelques mois. Et depuis, donc là je parle des années 80, n'est-ce pas? Et depuis les années 80, il y a eu quand même une certaine prise de conscience de la relation entre eau non traitée et diarrhée et la nécessité de la réhydratation orale, etc. Mais il faut le reconnaître, l'épidémie, l'introduction du choléra en Haïti a permis de renforcer, si vous voulez, ces messages et surtout de prendre conscience de la nécessité, je dirais même de l'urgente nécessité d'améliorer nos indicateurs par rapport à ces éléments-là. Parce que il nous faut le reconnaître très humblement, c'est pas normal qu'une population se retrouve obligée d'utiliser comme eau de boisson l'eau d'une rivière. Je veux parler de l'Artibonite, point de départ de l'épidémie. Nous, en tant qu'Haïtiens, nous devons le reconnaître. Quand je dis nous, je parle des élites de ce pays, nous devrions demander pardon à la population haïtienne pour avoir accepté que cette situation soit encore présente dans ce pays.
aussi en comparant la situation dans d'autres pays, il y a vraiment des manques essentiels. On va dire que là, c'est vraiment un manquement essentiel. On parle de besoins primaires de la population.
Je m'amuse depuis un certain nombre d'années. J'ai même fait travailler l'un de mes anciens étudiants sur cette thématique. Je m'amuse à comparer systématiquement les indicateurs de santé d'Haïti avec ceux de notre plus proche voisin, la République dominicaine. Et là, mais on se rend compte que l'écart, sur le même territoire, la même île, l'écart, il est vraiment énorme. Et je crois que c'est une responsabilité des élites de ce pays de dire non à l'inacceptable. Et probablement, c'est ce qu'on n'a pas su faire depuis 1804.
Alors, on ne sait pas si les élites le font. En tout cas, la jeunesse essaie de faire changer les choses. Vous en êtes l'illustration, Beverly Pierre. Ça fait quoi d'être dans un pays où il y a le choléra quand on est jeune, quand on a toute la vie devant soi, quand on a des projets? Est-ce que, d'une certaine manière, on se dit qu'on a, que c'est pas normal de grandir dans un pays où, justement, il y a une maladie qui est aussi redoutable et qui est, on va le dire, aussi évitable?
C'est très difficile, on va dire, pour nous de vivre dans une situation pareille, surtout pour les enfants, parce qu'ils sont plus fragiles, plus vulnérables que les adultes. Il faut que les autorités locales et le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Éducation nationale se mettent ensemble pour créer un programme ou d'intégrer des programmes et de pratiques d'hygiène, d'environnement, de santé dans le cursus scolaire pour que, à la base, on puisse sensibiliser les enfants et pour quand ils deviennent grands, ils grandissent avec ces idéologies, ces pratiques d'hygiène, ces bonnes pratiques d'hygiène pour éviter qu'ils soient malades pour rien.
Changer les mentalités par l'éducation sanitaire notamment, professeur Jean-Hugues Henrys, c'est important. Il y a un autre élément que je voulais aborder avec vous, Beverly Pierre, pour conclure ce dossier un petit peu sur l'assainissement, sur également les latrines, c'est la question de l'intimité, de la sécurité, notamment pour les jeunes filles. Quand on va aux toilettes, en plein air, on court des risques pour sa santé, mais aussi pour sa sécurité, avec notamment un certain nombre de violences sexuelles constatées sur des jeunes filles quand elles voulaient. Ça avait été pointé après le tremblement de terre, on s'en souvient, dans les camps de réfugiés où toutes ces personnes vivaient toutes les près les unes des autres, avec vraiment une promiscuité très intense qui avait conduit à un certain nombre de violences. Mais c'est toujours le cas, avoir aussi des toilettes chez soi, c'est avoir une intimité chez soi, et c'est aussi protéger son corps, Beverly Pierre. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle aussi?
Bien sûr. Donc, Ecolacay a son slogan santé, sécurité et fierté. Parce que santé, ça améliore la santé, surtout pour les jeunes filles. Ça évite les infections vaginales, etc. Et en plus, sécurité, parce que les familles ont leurs toilettes privées chez eux. Donc, ils n'ont pas besoin de sortir à minuit, 1h du matin, dehors. Et puis, fierté, parce que ça diminue également dans l'environnement les effets des matières fécales qu'on peut trouver dans les rues, etc.
Alors, s'il y a aussi un autre problème dont tout le monde se plaint ici à Port-au-Prince et ailleurs, ce sont les détritus, le fatras, si j'ai bien compris, comme on dit ici, c'est un petit peu écrit sur les murs de la ville, pas de fatras, c'est un petit peu comme chez nous, pas de dépôt d'ordures, c'est à peu près la même chose. Cette gestion des déchets, entre 6 000 et 8 000 tonnes de déchets produits chaque jour dans la région de la capitale, ce sont les chiffres, 28% seulement collectés. On a envie de dire, professeur Jean-Hugues Henrys, que deviennent les 70% de déchets non collectés?
La population s'en défait comme elle peut.
On brûle, on incinère.
Oui, on brûle. Et il y a une grande partie, particulièrement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, qui va dans les systèmes de canalisation des eaux usées. Et bien évidemment, à chaque averse, eh bien, ça part dans la mer. De ce fait, la baie de Port-au-Prince est une poubelle géante aujourd'hui. Et on dit même que les bâtiments plastiques, par exemple, vont chez nos voisins, à Cuba, à Jamaïque, etc., etc. Donc c'est un véritable problème non encore résolu. Ce qui est quand même important à retenir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à en prendre conscience. Et là encore, je prends un exemple très simple. Les matières plastiques en styrofoam, etc., il y a une interdiction d'importation depuis, je sais plus, 5, 6, 7 ans. Mais on continue encore à les utiliser et ostensiblement.
On voit par exemple dans la rue des marchandes qui mettent les plats chauds dans ces installations en polystyrène, hein, styrofoam comme on dit en Amérique, et qui vendent ces produits dans la rue comme ça, ça continue.
Et l'interdiction remonte à plusieurs années déjà.
Et qu'est-ce qu'on peut voir justement comme conséquences concrètes en termes de santé, de cette cohabitation avec les déchets, mais aussi, professeur Jean-Hugues Henrys, avec les produits incinérés?
Il y a deux choses. Quand vous avez des déchets, vous faites le lit pour les cafards et les rats.
Vecteur de maladie.
Bien évidemment. Et quand maintenant on entre dans le processus d'incinération, etc., c'est la pollution de l'air, avec toutes les conséquences connues et non encore connues de ce phénomène. Voilà.
Alors tout à l'heure, on parlait justement...
j'insiste sur le fait qu'on ne parle pas uniquement de maladies infectieuses, on parle aussi de maladies non transmissibles. Parce que le lien entre un certain nombre de cancers et les questions d'environnement, c'est aujourd'hui, c'est un lien qui a été établi. Et tout le monde vous dira qu'en Haïti, oui, on dira que c'est parce qu'on vit plus longtemps, on dira que c'est parce qu'on dispose de moyens de diagnostic, mais tout le monde vous dira que le nombre de cancers est en augmentation en Haïti. Et c'est un phénomène nouveau. Et justement, il nous revient d'établir de façon formelle ce lien. Nous avons besoin de données probantes en Haïti sur cette thématique et nous y travaillons sérieusement.
Avec une interaction, Wankos Leroy, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la qualité de l'eau. Là, on a ces déchets ménagers ou autres qui sont rejetés dans des canaux. Et donc, une nouvelle fois, on est dans la même dynamique de pollution.
Effectivement. En plus de tous les problèmes de cancer, il y a aussi avec les canaux qui sont bouchés, avec l'ensemble de ces déchets-là, ça augmente aussi le risque d'inondation. Et par le passé, nous avons constaté aussi des flambées qui sont dues par rapport à l'inondation entre les matières fécales et la remontée de l'eau dans certaines zones. Et en plus de ça aussi, il y a des infiltrations sur les réseaux d'eau. Donc, c'est effectivement un véritable problème. Et c'est des choses qui peuvent avoir d'autres conséquences.
Une prise en charge donc globale pour traiter cette problématique des ordures et cette problématique de la qualité de l'eau.
Priorité santé. Sur RFI. Port-au-Prince, 89.3 FM.
Alors nous approchons de la conclusion de cet échange. En préparant cette émission, professeur Jean-Hugues Henrys, vous avez tenu personnellement à insister sur une autre nuisance environnementale. Et je dois vous dire que depuis qu'on est arrivé à Port-au-Prince, on a compris pourquoi vous vouliez insister sur cette nuisance. Cette nuisance, c'est le bruit. On n'y avait pas pensé avant de venir. Mais quand on circule dans la ville, le bruit est absolument incessant. Il est absolument entêtant, envahissant. Et je vous dirais même qu'il est totalement, professeur Jean-Hugues Henrys, il est stressant.
Moi, je vais vous dire, il y a de cela 36 ans, je n'en avais absolument aucune conscience non plus. C'est pendant mes études en France que j'ai eu à travailler sur le bruit en milieu industriel. En fait, j'ai fait mon mémoire sur le bruit à l'unité industrielle de la pharmacie centrale de Nanterre. Et bien évidemment, depuis cette époque, je suis sensible à cette question. J'ai même un sonomètre installé sur mon smartphone. Et on en On est conscient en Haïti, il y a même eu à un certain moment des communiqués des autorités étatiques pour interdire un certain niveau de pollution sonore.
Pour que
etc.
les gens comprennent bien, par exemple, au lieu de mettre le clignotant, au lieu par exemple de tourner de façon en fonction d'une priorité routière, je veux dire, les gens klaxonnent. Alors on s'est amusé avec l'équipe, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, ça n'arrive jamais qu'on arrive à 5 sans qu'il y ait un coup de klaxon.
Bien sûr.
Et ça klaxonne tout le temps.
Ça klaxonne tout le temps, il y a des décibels partout, on est champion là-dedans, et depuis quelques années, dans certains quartiers, je dis bien dans certains quartiers, et là j'interpelle les maires, les mairies, les responsables des municipalités, il y a des gens qui sont exposés au bruit toute la nuit, parce que il y a des églises, c'est comme ça qu'on les appelle, où on organise donc des
espèces
de
veillées. Donc c'est des prêches nocturnes ?
Tout à fait, pas que des prêches, mais avec aussi de la musique. Et il y a des quartiers, particulièrement les quartiers populaires, où des gens sont exposés à cette nuisance sonore de 8 heures du soir à 3-4 heures du matin.
Donc insomnie, donc problème de sommeil.
Problème de sommeil, problème de stress et tous les autres effets biologiques aussi du bruit. Parce que ça agit sur notre formule sanguine. Il y a la surdité, mais attention, la surdité par le bruit est une surdité définitive parce qu'il s'agit de destruction du nerf auditif. Donc vous êtes exposé pendant très longtemps de manière chronique à des niveaux sonores supérieurs à 90 décibels, vous en sortez avec une surdité irréversible. Et là, je crois qu'il y a un effort à faire dans ce pays.
Juan Cos-Loror, vous êtes là en tant qu'expert pour parler du choléra, je vous parle en tant que citoyen haïtien. C'est aussi quelque chose dont vous souffrez, ce bruit omniprésent, incessant ? On s'habitue ou pas ? Moi, je suis pas encore habitué, je suis pas resté assez longtemps. Est-ce qu'on s'habitue ?
Bon, c'est effectivement, on s'habitue parce que c'est des choses qui arrivent toujours, mais sans rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur vous, sur votre santé, etc. Mais effectivement, c'est très courant. Et on a l'impression que presque tout le monde l'accepte en tant que tel.
Professeur Jean-Hugues Henry, est-ce que c'est quelque chose qui est subi aussi quand on va à la campagne, loin de Port-au-Prince? Est-ce qu'il y a ce même bruit ou est-ce que c'est propre à la capitale?
Dans les villes, oui. Dans la ville de Jacmel, vous serez agressé par le bruit.
Donc c'est haïtien.
Par contre, à quelques kilomètres, à Meyer ou à Raymond, etc., c'est le milieu rural. Et là, bien évidemment, on retrouve la tranquillité dont on a besoin pour être en équilibre avec soi-même et avec son environnement.
Et le bon vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On l'a compris, des défis, des attentes immenses en matière d'amélioration de l'environnement pour accéder à de meilleures conditions d'hygiène et de bien-être. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Hugues Henrys, directeur du laboratoire santé-environnement à la faculté des sciences de la santé de l'université Quisqueya à Port-au-Prince, ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université Notre-Dame d'Haïti. Merci beaucoup, Beverly Pierre, pour tout ce que vous faites. C'est concret, mais c'est très utile. Et de nous avoir fait découvrir ce projet Écolocaï que vous portez ici à Port-au-Prince. Et merci à vous, Juan Cos-Loror, responsable du projet Choléra, l'ONG Solidarité Internationale en Haïti, Environnement et Santé, une émission réalisée avec le soutien de la Fondation Pierre Fabre. Une émission préparée par Ophélie Lassène avec Marc Kingtoff-Casimir, réalisée par Victor Hull à Port-au-Prince et Didier Bleu à Paris. À demain.
Priorité santé avec Suno Assurance. Comme les voyageurs prévoyants, assurez-vous de belles vacances avec l'assurance voyage. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.